Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Médecins, aides-soignants, doyens, étudiants, ils sont appelés à descendre dans la rue ce jeudi. Une mobilisation pour sauver l'hôpital public. Vont-ils être entendus par l'exécutif ? Élément de réponse en début de journal.
Et nous irons ensuite en Allemagne, qui doit entrer en récession technique ce matin. Elle est trop dépendante des exportations, nous dira notre correspondant à Berlin.
Direction ensuite Gaza, où un cessez-le-feu est annoncé entre Israël et le djihad islamique dans la bande de Gaza. Ce matin, des roquettes étaient encore tirées vers Israël.
Et puis nous nous pencherons sur le cas de milliers de Syriens de retour chez eux, victimes de violences et menaces. Sous le régime de Bachar el-Assad, ils pensent à repartir en Europe.
Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs nous rejoindra pour faire un point sur la mobilisation contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Les soignants se disent épuisés. Ils dénoncent leurs conditions de travail, le manque de lits et de moyens pour l'hôpital public. Ce jeudi, des manifestations sont donc prévues un peu partout en France et cela va bien au-delà de la grève des urgences démarrée en mars dernier. À présent, tous les corps de métier sont invités à manifester. Les associations de patients, les étudiants, les internes, les syndicats également. Le gouvernement, lui, promet un nouveau plan d'ici la fin du mois, le tout dans un contexte très politique, Tara Schlegel.
Chacun y est allé de sa petite phrase. Agnès Buzyn a promis, dans les colonnes du JDD, travailler à des mesures hospitalières sur l'attractivité des conditions de recrutement. Entendez, elle réfléchit à des augmentations de salaire. Le président Emmanuel Macron, lui, a avoué qu'il faut une réponse d'urgence pour traiter les souffrances immédiates des personnels. Il regarde ce sujet avec attention. Au Sénat, à l'Assemblée, on vote en ce moment le budget de la sécurité sociale et singulièrement de l'hôpital. Il devrait augmenter de 2,1%, mais il faut encore utiliser le conditionnel car la ministre assure travailler à des ajustements. Et il se trouve que les sénateurs ont donc refusé de voter l'augmentation de ce budget pour l'instant en commission. Mais si ce chiffre de 2,1% est confirmé pour l'hôpital, ce sera moitié moins que ce qu'espèrent les personnels. Il se base sur une estimation de la Cour des comptes qui assure qu'il faut augmenter les dépenses de 4,4% à l'hôpital pour continuer à soigner les Français comme on le fait jusqu'à présent. Or, les personnels qui se battent depuis des mois pour une amélioration de cette prise en charge sont donc vent debout contre le projet de budget de la Sécurité sociale. Ça va bien au-delà des 268 services d'urgence en grève aujourd'hui. Voilà pourquoi il devrait y avoir dans la rue, normalement, des patients également, des internes et des médecins qui ont rejoint le mouvement.
Et j'ajoute que cette colère, cette fatigue dans les hôpitaux est soutenue par une grande partie de la classe politique, à demi-mot notamment par les députés de la majorité. Jean-François Cesarini, par exemple, élu du Vaucluse, estime que le plan de soutien du gouvernement pour les hôpitaux arrivera un peu tard.
Il fallait annoncer des mesures bien avant, pas attendre cette grève-là. Il fallait le faire avant parce que sinon on va encore courir après des manifestations. On se rappelle les gilets jaunes. On était arrivé sur « Ah mais ok, on baisse la taxe sur les carburants ». Oui, mais nous on n'en est plus là, on en est sur l'ISF, on en est sur le pouvoir d'achat. Et quelques semaines après, ok, on va toucher au pouvoir d'achat. Oui, mais on n'en est plus là, on est sur la représentation démocratique, sur le RIC, etc. etc. Donc, et au final, c'est 12-14 milliards qui ont été posés. Donc je le dis parce qu'il aurait fallu annoncer avant, notamment la non-compensation du trou de la sécu, me semble avoir été une erreur. J'espère qu'on reviendra dessus. Effectivement, on ne peut pas laisser ce trou-là de la sécurité sociale, qui n'est pas creusé par le monde médical cette année. La sécu aurait dû être à l'équilibre. Et c'est par les mesures d'urgence des Gilets jaunes qu'on a creusé ce trou de la sécurité sociale. Mesure que je soutiens encore une fois. Mais il fallait que l'État compense ce trou de la sécurité sociale et ne demande pas finalement au monde médical de combler un trou qu'ils n'ont pas creusé. C'est pour ça qu'il y a cette grogne depuis mars. Depuis mars, ils sont en grève. Donc je crois que c'est très important de les entendre là. Il va falloir des annonces extraordinairement massives derrière parce que là, sur l'hôpital public, il y a vraiment un danger et un souci très grave. Et encore une fois, ne trouvons pas des boucs émissaires sur l'immigration qui ne représentent que très très peu du budget santé.
Voilà pour cette alerte au sein même de la majorité à l'Assemblée. Hier, d'ailleurs, la députée du Nord, Jennifer de Temmermann, a quitté le groupe La République En Marche. Elle dit avoir perdu l'espoir. Elle s'interroge sur l'avenir du parti. Un malaise qui est clairement en train de s'installer, Rosalie Lafarge.
Où est notre âme? Où allons-nous? Ces questions soulevées par Jennifer de Temmermann pour expliquer son départ du parti majoritaire, la députée n'est pas la seule à se les poser. Si ses collègues de l'aile gauche regrettent cette nouvelle défection, ils sont plusieurs à la comprendre. On n'a pas signé pour ça, peut-on entendre dans les couloirs du Palais Bourbon. Ça, c'est la politique menée par l'exécutif, ou au moins une partie de cette politique. L'aile gauche y voit bien trop de droite. Sur l'immigration, sur la laïcité, sur le travail de nuit, on nous agite des totems en permanence. France, regrette une marcheuse. Sur l'écologie, on doit mendier pour des choses censées être des priorités, abonde une autre. Sur les investitures pour les municipales, on copine clairement plus avec les LR et l'UDI que de l'autre côté, ajoute encore un élu LREM. Les raisons de la colère sont multiples et le groupe majoritaire à l'Assemblée a perdu 10 députés en 2 ans. Alors s'il ne veut pas voir partir les mécontents qui restent pour l'instant ou devoir gérer un groupe de frondeurs assumés comme du temps de François Hollande, l'exécutif va devoir tenter quelques gestes en direction des marcheurs venus du socialisme ou de l'écologie politique. En commençant, pourquoi pas, suggèrent certains de ses députés, par nommer des pontes de gauche aussi puissants que ceux de droite dans le gouvernement lors du prochain remaniement.
Et combien donc restera-t-il de députés sous l'étiquette LREM à la fin du quinquennat? Combien de maires? À 4 mois des municipales, les partis et notamment celui de la majorité comptent leur soutien. Sur France Culture, tous les jeudis jusqu'à Noël, nous nous arrêtons dans une commune direction Rouen ce matin où la campagne débute. 2 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Céveso O, notamment d'ailleurs à ce propos, notons que ce matin les agriculteurs ont reçu les premiers versements des indemnisations à Rouen et dans l'agglomération. Côté politique donc, et à 4 mois des municipales, le maire socialiste Yvon Robert ne se représentera pas. Bonjour Delphine Garneau.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef de France Bleu Normandie à Rouen, nos yeux et nos oreilles donc dans la ville. 6 candidats se sont déclarés pour ces municipales. Delphine, les jeux sont ouverts.
Et oui, et d'autant plus que la recomposition politique est passée par là. Ça fait depuis 2008 que la ville est dirigée par les socialistes, Valérie Fourneyron, avant d'être nommée ministre des Sports, et puis Yvon Robert, son premier adjoint. Le tout dans un environnement très fabusien, puisque rappelons que l'ex-premier ministre a été longtemps président de l'agglomération de Rouen. Mais les signaux d'alerte pour le PS sont bien là, comme les résultats des dernières européennes, où En Marche, suivi des écologistes, ont ravi les deux premières places. Donc, le Parti Socialiste pourra-t-il conserver Rouen? Quel espace et quelle place pour le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, ce fabusien d'origine, ancien président de région, issu de la majorité du maire sortant, veut co-construire son projet, mais il part sans les écologistes au premier tour. Comme en 2014 et comme il y a 6 ans, les écologistes se sont emmenés par Jean-Michel Bérégovoy, qui avait obtenu 11% avant de faire alliance avec le PS. Mais l'air du temps, et l'air de Rouen d'ailleurs, ne sont plus les mêmes. Les questions environnementales encore plus prégnantes, notamment ici où la place de l'industrie dans la ville a refait violemment surface depuis l'incendie de Lubrizol.
Alors Delphine, qui va en tirer parti? Cette incertitude à Rouen n'a évidemment pas échappé à La République En Marche.
Et le parti présidentiel a accordé son soutien mi-octobre à Jean-Louis Louvel, un novice en politique mais proactif ces dernières années sur la scène économique rouennaise, un entrepreneur, propriétaire du quotidien Paris-Normandie, qui pour le moment n'a pas ramené dans son camp une autre prétendante au soutien à LREM, Marine Caron, vice-présidente au département. Ajoutez à cela les troubles faits que peuvent être le candidat LR Jean-François Bure et le candidat RN Guillaume Pénel. Et vous l'avez compris, la messe n'est pas dite à Rouen.
Et nous suivrons tout cela lors des 4 mois à venir. Merci beaucoup Delphine Garneau en direct de France Bleu Normandie pour France Culture. Le gouvernement reçoit aujourd'hui et demain les représentants syndicaux des étudiants. Ils seront accueillis par Gabriel Attal, le secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Rendez-vous pris après les rassemblements de mardi dans une 40aine de villes et les blocages des universités. Hier d'ailleurs, Lyon 2 est resté fermé. Les étudiants ont été évacués dans la soirée. Cette colère a été déclenchée vendredi dernier lorsqu'un jeune homme s'est aspergé d'essence avant d'y mettre le feu devant le Crous de Lyon. Son corps est brûlé à 90%. Les chiffres de l'INSEE sur le chômage, ils tombent à l'instant et le taux de chômage est en légère hausse sur le troisième trimestre, plus 0,1 point, soit 8,6% de la population active en France, hors Mayotte.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'Allemagne devrait entrer en récession en ce troisième trimestre.
Oui, l'Office fédéral des statistiques en Allemagne doit communiquer ce matin les chiffres de la croissance. Une récession technique, car contrairement à la France, l'Allemagne n'a pas un taux de chômage très élevé, mais la structure, le modèle sur lequel son économie est basée est remise en question en ce moment, David Philippot.
Avec le refroidissement de la conjoncture internationale et les tensions commerciales, l'économie allemande paye le prix de sa dépendance aux exportations. Même si, les économistes le soulignent, les fondamentaux sont bons, le chômage à 4,8% est au plus bas depuis la réunification et l'Allemagne présente cette année, c'est la cinquième fois consécutive, un budget en excédent, pas de panique donc, les caisses sont pleines et l'annonce attendue d'un mauvais chiffre ne prend personne par surprise. Depuis un an, les commandes sont en baisse et la consommation des ménages ne parvient pas à soutenir la croissance. Comme une dépression automnale, le moral des investisseurs et des ménages est morose et c'est d'abord l'automobile, pilier lézardé dans un secteur en pleine révolution qui constitue la principale source d'inquiétude. L'équipementier Continental vient d'annoncer une perte sèche de 2 milliards d'euros en 3 mois, 5 000 emplois sont en danger et la menace de taxes douanières brandie par Donald Trump donne des sueurs froides aux constructeurs déjà distancés par l'américain Tesla et les Asiatiques dans la course à l'électrique. Et c'est d'ailleurs parce que l'automobile allemande, qui emploie 1 750 000 personnes, affronte des vents contraires que le gouvernement vient d'annoncer un grand plan d'investissement, 3 milliards d'euros en bornes de recharge et primes à l'achat. On verra si le mauvais chiffre attendu pousse les Allemands, comme le souhaite le gouvernement français, à délier davantage les cordons de la bourse.
C'était David Philippot depuis Berlin. Des flèches contre des policiers. Les manifestants pro-démocratie à Hong Kong sont accusés d'en avoir tiré ce matin. Ils ont intensifié leurs actions ces 4 derniers jours, multipliant les foyers de protestation pour paralyser la mégalopole. Des centres commerciaux, des écoles et des stations de métro sont fermés en ce moment. Scène de tension et de violence également ces dernières heures dans la bande de Gaza et une partie d'Israël. Ce matin, l'Égypte annonce un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en accord avec le djihad islamique. Nous retrouvons notre correspondant dans la région, Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour.
Peut-on croire en ce cessez-le-feu, Frédéric ?
En tout cas, depuis presque 2 heures, il n'y a pas eu d'alerte dans le sud-ouest d'Israël. Le cessez-le-feu semble donc entrer en application. 2 signes ne trompent pas ce matin, Clara. L'armée israélienne a levé les mesures de confinement et de restriction dans les régions frappées par les roquettes. Les écoles rouvrent, à l'exception des communes frontalières de Gaza. Et puis, les télés israéliennes ne sont plus en édition spéciale continue ce matin. Cela aussi, c'est un signe. La trêve a été négociée sous l'égide de l'Égypte et des Nations Unies. Au moins 34 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis 2 jours. Impossible pour nous de vérifier la proportion de civils et de ceux qu'Israël qualifie de terroristes. 77 Israéliens ont été blessés. L'émissaire de l'ONU estime que les prochaines heures et les prochains jours seront critiques. Il appelle chacun à faire preuve d'un maximum de retenue pour éviter un bain de sang. On pense notamment à demain, vendredi en fin d'après-midi, car chaque semaine, des Gazaouis manifestent à la frontière avec Israël et souvent les tirs de l'armée israélienne font des victimes.
Merci beaucoup Frédéric Mettezo depuis Jérusalem pour France Culture ce matin. Le régime de Bachar el-Assad va-t-il une fois encore pousser des milliers de Syriens à reprendre la route et à gagner l'Europe ? En tout cas, les réfugiés syriens rentrés au pays témoignent. Arrestations, tortures, menaces, embrigadement de force. Ils affirment vivre un calvaire, Jérémy Lanche.
L'Association syrienne pour la dignité des citoyens a réussi à joindre près de 300 personnes. Leurs témoignages vont tous dans le même sens. Les 2/3 sont menacés ou ont un membre de leur famille menacé d'arrestation par les services de sécurité. Une même proportion dit avoir été extorquée par les autorités. Retourner dans les anciennes régions rebelles est particulièrement dangereux, selon Nader Othman, l'un des membres de l'association.
Ceux qui subissent les pires traitements sont ceux qui rentrent dans les zones où un accord de réconciliation a été passé avec le régime, comme dans la route près de Damas. En général, les autorités les laissent tranquilles une semaine et puis elles arrêtent les hommes. Ceux qui ont l'âge de faire l'armée sont immédiatement envoyés sur les zones de front les plus dangereuses. C'est comme si on les condamnait à mort.
Tous les retours ne sont pas volontaires. Cet été, Amnesty International a accusé le Liban d'avoir forcé plus de 2500 Syriens à rentrer en Syrie. D'autres ONG pointent du doigt la Turquie, qui réfute elle aussi ces accusations. Rentrer en Syrie ne serait pas seulement prématuré, selon Nader Othman, ce serait aussi ouvrir les portes à un nouvel exil pour les Syriens.
These people have made up their mind they will never come back. They confess that they made a mistake.
Ceux qui sont rentrés le disent, ils ont fait une erreur et ils en sont désormais certains. Ils vont quitter la Syrie et ne jamais revenir. C'est le pire scénario pour l'Europe. Encourager les Syriens à rentrer dans leur pays aujourd'hui, étant donné les circonstances, c'est le meilleur moyen de parvenir à un désastre. Le nombre de personnes qui vont chercher à gagner l'Europe sera encore plus important.
L'association syrienne pour la dignité des citoyens demande la fin des retours forcés et la création d'un mécanisme international de suivi pour garantir la sécurité de ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays.
Exit les différends, il était temps d'afficher une amitié de façade en tout cas. À Washington, les présidents américains et turcs ont fait mine de s'entendre hier. Donald Trump a assuré être un grand fan de Recep Tayyip Erdogan, qu'il recevait à la Maison Blanche. Il est toutefois resté très évasif sur l'offensive militaire turque débutée il y a un mois maintenant en Syrie. Une sorte de contre-feu car pendant ce temps, au Congrès américain à Washington, se tenaient les premières auditions publiques dans l'enquête en vue de l'éventuelle destitution de Donald Trump. Et un diplomate américain a déclaré hier qu'un canal diplomatique irrégulier avait été mis en place avec l'Ukraine. L'état de catastrophe naturelle doit être décrété aujourd'hui à Venise en Italie face à la montée des eaux. Une marée haute particulièrement importante cette année. Mardi, il y a deux jours, l'Acqua Alta est montée à 1,87 m du jamais vu depuis 53 ans. En France, aujourd'hui, il y a un risque de neige et de verglas de la Seine-et-Loire jusqu'à l'Ardèche. Il va pleuvoir par ailleurs sur la partie sud du pays, sous des températures toujours fraîches, 5 degrés ce matin à Strasbourg et à Lyon, 7 à Lille, comptez 8 degrés à Nantes et à Paris et 13 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h16 sur France Culture.